Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, Voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinne L, un programme Maurice Clément Fèvre. De pénibles années à venir se dessinent pour notre peintre. Il vient d'enterrer son frère Achille précédemment, et 1894 s'annonce bien difficile à tout point de vue. Prenons pinceau, palette et chevalet, et posons-les en terre parisienne. Bienvenue chez Hilaire Germain, Edgar Degas. Les mauvaises nouvelles se succèdent encore au cours des mois à venir. Gustave Caillebotte, qui se heurtait plus d'une fois avec Degas, s'éteint le 21 février 94 à 46 ans. Paul Valpinson, son ami d'enfance, décède en octobre. Et en décembre, c'est Edmondo Morbilli, son beau-frère, qui disparaît. Les amis, la famille, autour d'Edgar, s'éteignent petit à petit. Toutes ces disparitions ne lui remontent pas le moral et n'arrangent pas son caractère, qui s'exacerbe avec l'affaire Dreyfus.
Tension au pays.
En effet, cette année 94 est le témoin de bien de bouleversements. La montée du terrorisme anarchiste s'amplifie. Le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné par Carzerio le 24 juin à Lyon. Casimir Perrier devient alors président. Par ailleurs, l'affaire Dreyfus va diviser la France. Alfred Dreyfus, officier français, est accusé de haute trahison, c'est-à-dire d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est condamné le 22 décembre à la déportation vers les îles du Salut, en Guyane. Degas semble plutôt d'accord avec la sentence. Le peintre continue à étoffer sa collection de tableaux, avec l'achat, en janvier 1995, de 8 toiles de Paul Gauguin. Il acquiert des œuvres de Van Gogh, Cézanne, Delacroix. À la fin de l'année, il clamera
« J'achète, j'achète, je ne peux plus m'arrêter !»
Encore une triste nouvelle qui lui arrive avec le décès le 2 mars de la peintre Berthe Morisot, âgée de 54 ans. En août, il part au Mont d'Or en séjour pour une bronchite. Il écrit à sa cousine de Naples, Lucie Degas, guerrero de Balde, afin d'avoir des informations de ses affaires familiales.
Une passion de plus.
Entre 1995 et 1900, Degas s'intéresse à la photographie. Avec Tassé, son ami, marchand de couleurs et encadreur, il assiste au développement et agrandissement de ses photos. Il s'exerce à la photographie de nuit, avec des lampes, donnant ainsi des tons clairs-obscurs. Ses tirages sont exposés chez Tassé. Il écrit le 29 septembre à Ludovic à Lévy.
« Je vous tomberai un beau matin avec mon appareil. »
Et à Lévy rapporte.
« Ce matin, chez Degas, nous sortîmes. » Il parlait de la France, de photographie de la France, le tout confondu dans une même exaltation. Il me menait chez Tassé, son photographe, et me montrait ses dernières épreuves. Mallarmé, Renoir, une famille Manet, une madame Hollande.
Quant à Julie Manet, fille de Berthe Morisot, elle écrit dans son journal. Monsieur Degas ne pense plus qu'à la photographie. Il nous invite tous à dîner chez lui la semaine prochaine. Il fera notre photographie à la lumière. Seulement, il faut poser 3 minutes. Il a voulu voir si nous étions de bons modèles et a fait poser M. Renoir, qui s'est mis à rire. En octobre, Edgar doit s'occuper du rapatriement à Paris du corps de sa sœur Marguerite, décédée à Buenos Aires, et de l'enterrement dans le caveau familial. C'est une bien funeste année pour le peintre. Heureusement, la jeune Julie Manet lui rend souvent visite. Et elle est aussi fréquemment invitée à dîner avec Renoir, Bartholomé et Mallarmé. Le legs Caillebotte est enfin adopté en 1996 par le musée du Luxembourg. Toutes les œuvres de Degas, 7 pastels, sont acceptées. Des danseuses, des femmes à leur toilette ou à la terrasse d'un café. Elles seront exposées en février 1997 dans une annexe du Luxembourg. Par ailleurs, Degas se charge avec Renoir et Monet de l'exposition posthume de Berthe Morisot chez Durand-Ruel. Elle ouvre en mars avec 300 tableaux de la peintre. Degas continue à étoffer sa collection. Il acquiert de Zacharia Struc, critique et peintre, le Saint-Dominique du Gréco pour 3000 francs. Apparemment, En ce printemps 97, les deux frères, Edgar et René, se sont réconciliés, comme l'atteste un courrier daté du 20 mars. En août, le peintre part avec Bartholomé à Montauban visiter le musée Ingres.
Une affaire qui divise.
Un mouvement de soutien au capitaine Dreyfus déporté s'est formé. Anatole France, Jaurès, Clémenceau, Zola, Mirbeau en font partie. Monet les rejoint et signe la pétition pour la demande de révision du procès en novembre 1997. Zola publiera le 13 janvier 1998 dans l'Aurore, dirigé par Clémenceau, son célèbre J'accuse. En découlera en février 1998 l'Association française, la Ligue des droits de l'homme. Pour l'instant, les relations entre Degas anti-Dreyfusard et certains de ses amis sont des plus tendues. Il va les désavouer plus ou moins temporairement. À l'occasion des dîners, on évite soigneusement l'affaire Dreyfus. Malencontreusement, ce 23 décembre, invité chez son ami à Lévis, la jeunesse à table tient des propos qui exaspèrent Degas au plus haut point. Tendu, les lèvres pincées, il ne dit mot au dîner. Mais dès le lendemain, il envoie un billet à Madame à Lévis.
« Il va falloir, ma chère Louise, me donner congé ce soir, et j'aime mieux vous dire de suite que je vous le demande pour quelque temps. Vous ne pouviez penser que j'aurais le courage d'être toujours gai, d'amuser le tapis. C'est fini de rire. Cette jeunesse, votre bonté pensée m'est intercalée, mais je suis une gêne pour elle, et elle en est une, enfin, insupportable pour moi. Laissez-moi dans mon coin, je m'y plairai. Il y a de bien bons moments à se rappeler. » Notre affection qui date de votre enfance, si je laissais tirer plus longtemps dessus, elle casserait. Votre vieille amie.
Laissons l'homme à ses opinions pour rejoindre le peintre et ses dernières œuvres.
Du côté du musée.
Au cours de cette dernière décennie, Degas étudie encore la femme à sa toilette. Les traits hachurés sont plus accentués, les couleurs plus soutenues et les corps sans pattes. Le pastel, deux baigneuses sur l'herbe, est au musée d'Orsay. Il décrit deux corps féminins jaune crème se détachant d'une herbe d'un vert tendre. La sortie du bain, femme s'essuyant, collection particulière, est une toile pigmentée de bleu et d'orangé, dont la femme à genoux est hachurée à coups de pastel. Ce corps rayé dans un décor coloré se retrouve aussi dans « Femme s'essuyant le cou après le bain, pastel sur carton » à Orsay. Après le bain, collection privée, représente une femme nue de dos étendue de côté sur un fauteuil recouvert d'un drap. Le bleu du mur et le rouge orangé du sol illuminent cette toile. Nous savons Degas féru de photographie. Il réalise soigneusement des portraits de ses amis, de son frère René, de lui-même et aussi de modèles dénudés dans des séances de pose fastidieuses. Après le bain, femme s'essuyant le dos, est la photo d'une jeune femme dans la même pose que la toile « Après le bain » de 96. Les images lui servent donc à élaborer certaines de ses compositions. Les prises de vue à la campagne lui permettent de réaliser à l'atelier ses paysages. La photographie est pour Degas un outil de travail qui lui sert à innover en peinture et à fixer l'instantané. Il n'hésite pas à saisir dans son fauteuil son ami Henri Roire, devenu invalide. Il le décrit pâle, les traits tirés, les yeux caves, les deux mains jointes sur le pommeau de sa canne à côté de son fils Alexis. Henri Roire et son fils Alexis se trouvent à la Neue Pinakothek de Munich. Entre 1996 et 1998, Degas peint quelques paysages de Saint-Valery-sur-Somme, chez son ami Bracaval, peintre également. La composition est redevenue plus structurée. Les nuances jaunes-orangées et les tons gris-bleus étonnent un peu le spectateur. Ces petites toiles se trouvent au Musée des Arts de New York, à Copenhague et à Leicester pour la rentrée du troupeau. La coiffure, toile de grand format, 1m25 sur 1m50 à Londres, a été brossée dans des tons chauds rouge-orangés jusqu'à la robe et les cheveux de la jeune femme. Seuls les contours des deux personnages, rehaussés de noir, la table blanche ainsi que le corsage et le tablier crème de la camériste brisent cette atmosphère enflammée. Degas synthétise au maximum les expressions et les personnes. Nous sommes bien loin du dessin académique. Ce tableau fut acquis par Henri Matisse. la tonalité flamboyante de la toile a de quoi surprendre dans l'œuvre de l'artiste. Il en est de même du pastel « Chevaux de course » au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, Canada. Un autre exemple de cette explosion de couleurs chez les jockeys, avec leurs casaques roses, vert émeraude, jaune. Les têtes des cavaliers à peine esquissées, les chevaux brossés à grands coups de crayon pastel, indiquent à quel point Degas simplifie la composition. Le tableau à l'huile « Jockey blessé » à balle nous offre un dessin du cavalier à terre et le cheval esquissé, sans recherche artistique. Ils sont posés à plat, sur un fond vert simplifié à l'extrême, sans aucune perspective.
Et si nous parlions pastel ?
Bien sûr. Refermons doucement la porte du musée et rendons-nous dans l'antre du peintre, c'est-à-dire son atelier.
L'instant pratique. Pratique.
L'histoire du pastel ne date pas de si longtemps, environ 300 ans. Il fut employé au début des années 1700, à la fin de la période baroque, 1720-1750. Rosalba Carriera, peintre vénitien, célèbre pour ses portraits au pastel, généralisa cet art quand elle exerça en France sous Louis XV. La ville de Dresde détient 150 de ses pastels. Quentin de la Tour l'a suivi dans cette voie, ainsi que Perronneau, pour n'en citer que quelques-uns. Côté technique, le pastel s'emploie sur un support papier de bonne qualité, coloré ou non, plus ou moins rugueux. Le tissu, tel la soie ou le velours, peuvent être utilisés aussi. Le matériau ressemble à un bâton de craie de forme ronde ou carrée, parfois gainé de bois, logé dans des boîtes de 12 tons de base jusqu'à 180 nuances, 552 ou plus. Il peut aussi s'acheter à l'unité en complément d'une couleur ou tout simplement parce qu'il s'use trop vite suivant l'utilisation employée. La résistance à la lumière, qu'elle soit maximale ou suffisante, rentre aussi en compte. Il est fabriqué à partir de pigments en poudre, mélangés à une substance mucilagineuse qui sert de colle. La dureté du matériau, doux, moyen, dur, en détermine aussi l'usage. Après avoir tracé le dessin, coloré l'ébauche, vient ensuite le temps de préciser les tons, puis d'estomper avec les doigts, les endroits étendus, ou à l'aide d'une estompe pour les petites zones. Enfin, il faut souligner les détails avant de fixer, car le pastel est très fragile. Degas en était bien conscient et il était très exigeant sur son emploi. Écoutons Ambroise Vollard à ce sujet.
Et la question des fixatifs. Il ne voulait d'aucun des fixatifs que l'on trouve dans le commerce. Il leur reprochait de laisser un luisant et aussi de manger la couleur. Le fixatif dont il se servait était composé spécialement pour lui par son ami Kialiva, un peintre de moutons. Il était d'autant plus nécessaire pour Degas d'avoir un bon fixatif que ses pastels étant repris longuement et devant être fixés avant chaque reprise, il importait d'obtenir une parfaite adhérence entre toutes les couches de couleurs.
Edgar, en perpétuelle recherche dans ses techniques picturales, s'ingénie à mixer les différentes pratiques. Jacques Lassaigne en établit un parfait résumé en parlant de ses pastels.
C'est ainsi qu'il réussit à faire rendre au pastel des ressources insoupçonnées, en imaginant de le mélanger à la gouache, à la détrempe ou à la peinture à l'essence. Le premier, il combine le travail au crayon coloré et au pinceau. Le premier, il réussit à humidifier le pastel en insufflant sur lui de la vapeur d'eau bouillante. Enfin, en faisant successivement plusieurs couches et en répétant plusieurs fois l'opération de fixage et de la pose des couleurs, il obtient une matière aussi riche, aussi transparente et aussi profonde que certains vernis vénitiens.
D'ailleurs, Degas, exigeant, affirmait que la peinture n'était pas bien difficile quand on ne sait pas. Mais quand on sait, alors c'était autre chose. À Vollard qui lui demande au sujet d'un pastel sur un chevalet.
« Mais alors, ces danseuses qui sont aussi brillantes que des fleurs ?»
Degas lui répond.
« Comment j'obtiens ça ? Avec le ton mort, parbleu !»
Nous allons nous quitter sur cette leçon de peinture, dont Degas fut un maître dans cet art du pastel. Retrouvons-nous prochainement sur cette même antenne pour un nouvel épisode de Voyage en terre de couleurs.